Bonjour à tous. Je vous propose un petit voyage dans le temps. Nous sommes en 1969, en pleine mode hippie. L'universitaire Jean-Daniel Coudray décide de prendre le large au volant de sa Citroën de chevaux. But du voyage, rallier l'Iran. Avec l'un de ses amis, le jeune Valaisan quitte donc sa région natale à destination du Moyen-Orient. Aujourd'hui professeur à la retraite, Jean-Daniel nous raconte son périple 47 ans plus tard. Jean-Daniel Coudray, dans quelles circonstances et pourquoi avez-vous l'idée un jour de partir aussi loin?
Bon, parce que c'était un peu la mode, hein. C'était en 1969, les hippies commençaient à aller sur les routes. Même en Valais, on entendait vaguement parler des voyages dans les pays lointains. Ça, c'est une raison probable, hein. Le souvenir est un peu estompé. Et la deuxième, c'est que j'avais connu ici en Suisse un jeune homme iranien avec lequel je m'entendais très bien et qui avait, après quelques études ici, dû retourner en Iran. Et alors, sans cesse, il me dit « Mais viens me rendre visite, viens en Iran. » Et alors, j'avais décidé d'allier les deux choses, de voyager et d'aller lui rendre visite en Iran. Voilà, ça, c'est le point de départ.
Est-ce que vous avez hésité à un moment donné à partir en avion là-bas?
Oh, je crois pas du tout. Alors non, pas du tout. D'abord, j'aurais peut-être pas eu les moyens de partir en avion. Et puis, l'avion, c'est pas un voyage. L'avion, on va à un endroit. Le voyage, c'était tout le périple, c'était toute l'histoire de l'approche. Et c'était ça qui était intéressant, dont je ne savais strictement rien du reste. Mais c'était ça le vrai intérêt, c'est de voyager.
Pourquoi en deux chevaux plutôt qu'en train? Ou en bus?
Mais je pense, je ne sais plus exactement, mais je pense que ça tenait aussi à l'effet mode. Je suis parti avec une deux chevaux avec des roses peintes sur les portes. C'était vraiment le voyage hippie un peu là. Et alors, parce qu'il faut dire aussi que précédemment, la mode avait été lancée en Suisse de ces vestes en mouton retourné, brodées. Et l'idée était peut-être de faire fortune en Iran, de trouver quelque part pour ensuite exporter en Suisse ces vestes de mouton retournées. Pour gagner un peu d'argent, ça aurait été très sympathique. On était dans des grands magasins, on était dans des grands magasins suisses proposer ça, mais eux avaient déjà leurs propres fournisseurs. Ils ont bien dû sourire de voir de jeunes étudiants arriver, leur proposer deux ou trois vestes vaguement hippies à vendre dans les manors et compagnie. Ouais.
Quel pays avez-vous traversé avec la deux chevaux?
Alors, on est parti donc de Suisse et on a traversé le nord de l'Italie, ensuite l'ex-Yougoslavie, la Bulgarie. Mais ça, c'est l'un des épisodes les plus étranges. En Bulgarie, en pays communiste, c'était assez affolant. Là, quand on s'arrêtait dans des petits villages, on n'était pas très sûr de nous. Du reste, on avait fait une chose extraordinaire. J'avais pris comment s'appelait ce long couteau qu'avaient les militaires, que mon père avait laissé chez lui, un sabre militaire. J'avais dans la deux chevaux, au cas où on était attaqué, un immense sabre. Et on n'a pas été attaqué, mais parfois pas loin. En tout cas, le souvenir que j'en ai eu, c'était dans un village un peu perdu en Roumanie, où on s'était arrêté, il fallait bien dormir. Et on nous avait proposé de nous loger quelque part. Et on nous a fait boire, évidemment, boire, beaucoup boire. Et alors on a pris peur, on s'est dit qu'on allait peut-être nous, non pas être vraiment hospitaliers, mais peut-être nous faire boire, nous dévaliser, etc. Donc on a pris notre voiture, on était dormir dans la campagne quelque part, on a refusé à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais l'atmosphère était assez bizarre, oui, sombre, des endroits perdus, je suis même plus sûr qu'il y ait l'électricité dans ces lieux, c'est un peu particulier. Puis seul, là, puis un monde d'hommes essentiellement, là dans le bistrot où on était, il y avait des hommes, des femmes, j'ai jamais vu là-bas.
Suite de notre voyage, Jean-Daniel Coudray nous raconte son arrivée en Turquie.
Le souvenir le plus extraordinaire, c'était l'arrivée en Turquie, au loin, je ne sais plus comment s'appelait cette ville. C'était du reste pas Istanbul, c'était une ville qui précède Istanbul, j'ai oublié son nom. Mais tout à coup, il y avait des mosquées. Je n'avais jamais vu de mosquée à cette époque-là, il n'y en avait pas tellement ici. Et ça, c'était tout l'Orient qui arrivait. C'était magnifique, cette arrivée là-bas, voilà. Ensuite, il y a eu Istanbul. Alors Istanbul, il y a la mosquée bleue, il y a un certain nombre de lieux que le bazar que nous avons visité avec beaucoup d'intérêt. Et là, j'ai un épisode intéressant, c'est que On avait fabriqué de quoi pouvoir dormir dans la deux chevaux. Mais pour pouvoir y dormir, on devait sortir les sièges pour pouvoir s'étendre complètement et les attacher sur le toit ou sur le, je sais plus, non pas sur le toit, c'était sur le capot avant. Il fallait quand même attacher les sièges pour qu'on les retrouve le matin quand même. Alors on les attachait avec une chaîne. Et puis on avait arrêté la voiture, ou j'avais arrêté, je conduisais la voiture près de la Mosquée Bleue dans une petite rue parallèle. Et puis le soir venu, on dormait là-dedans. Puis au matin, au petit matin, qu'est-ce qu'on voit en levant les yeux? Un couteau qui déchire la toile de la deux chevaux de long en large et une main qui descend. Évidemment, panique, on gueule. Le bonhomme a cru, il a dû avoir la peur de sa vie, le bonhomme qui voulait voler ce qu'il voyait là-dedans. Il ne savait pas que c'était nous à l'intérieur. Mais voilà, toute la toile était déchirée. Il a fallu ensuite tenter de la recoller et faire en sorte que ça tienne. Et le bonhomme, après je suis sorti de la voiture en gueulant, mais le bonhomme avait fui évidemment. Mais voilà, ça c'était un épisode intéressant. Et ensuite, nous connaissions quelqu'un, enfin je connaissais quelqu'un à Istanbul, ou je connaissais plutôt le fils d'une dame assez aisée qui vivait à Istanbul. Et on m'avait donné son adresse. Et là, j'ai encore un épisode qui était très drôle. C'est qu'on a été invité. On avait pris, ou j'avais pris en tout cas, deux chemises blanches au cas où il fallait faire un peu de représentation. Donc on avait mis notre belle chemise de nylon blanche. Et puis on était invité à manger. Et là, panique, on nous sert du caviar. J'avais jamais vu de caviar. Je savais pas comment manger le caviar. Je savais pas s'il fallait prendre la fourchette, le couteau, la cuillère. On était très gênés là. Bref, on nous a montré comment manger le caviar. Et c'est à ce moment-là que nous avions décidé la voiture commençait à avoir de drôles de hoquets. On a pu laisser la deux chevaux et depuis là prendre les bus pour rejoindre l'extrémité est de la Turquie, Erzurum.
Et comment ça s'est passé au moment de quitter la Turquie? Un peu plus tard, un peu plus loin, Jean-Daniel franchit la frontière turco-iranienne.
Il a fallu attendre un certain temps à la douane, prendre un bus dans lequel il y avait essentiellement des Iraniens, et ensuite aller en direction de Téhéran, en passant d'abord par Tabriz, si mes souvenirs sont bons. Et à Téhéran, nous avions rendez-vous avec cet ami iranien qui devait être là tel jour, entre telle heure et telle heure. À l'époque, il n'y avait pas de portable, pas de possibilité autre de. Et comme on était parti depuis pas mal de temps de la Suisse, il avait fallu planifier tout ça pour arriver au bon moment. Bref, quand nous sommes arrivés au quartier général où son père, colonel du Shah, travaillait, eh bien, nous avons découvert qu'il n'était pas là, qu'il était reparti à l'autre bout de l'Iran, à Machad, c'est-à-dire très très loin, et que nous étions tout seuls là. Et c'était évidemment tout à fait surprenant et tout à fait désespérant parce qu'on était perdus là au milieu de cette capitale. Alors le père nous a dit qu'il allait communiquer avec lui et qu'il nous redirait le lendemain comment y aller ou si cet ami viendrait nous chercher. Seulement il fallait qu'on passe la nuit. Et alors on était dans cette immense ville, nous qui quittions tout juste notre Valais natal avec des petites villes de 10 000 à 20 000 habitants, nous nous trouvions tout à coup dans une immense métropole. Comment aller dormir où? Alors on s'est dit, on va dormir à l'extérieur. Mais l'extérieur, c'était peut-être 20 km. On a pris un moment un taxi, puis ensuite on a fait du stop et on a rencontré quelqu'un, enfin un Iranien qui nous a pris et qui nous a amené très loin de la ville. On la voyait depuis une colline au loin ou depuis la montagne quelque part. Et puis là, il avait lui vaguement entendu parler qu'il y avait là-bas peut-être des Français, puisqu'on parlait français. Et il nous a déposé au milieu de nulle part. C'était la nuit, on voyait Téhéran à l'autre bout et on était perdus.
Sans savoir où vous alliez dormir.
Évidemment, sans savoir, mais c'était très simple, on allait dormir dehors, donc comme on l'avait fait la plupart du temps. Donc on a cherché un endroit, moi je me souviens encore, parce que c'était assez affreux, j'ai trouvé un ruisseau, je me suis glissé avec le sac de couchage, je me suis mis dans ce ruisseau et je crois que j'ai commencé à pleurer parce que c'était affreux, on avait fait tout ce trajet, on était perdus, presque sans argent en Iran. Pas de voiture, avec cet ami qui n'était pas là, ne sachant pas comment on retournerait le lendemain. Bref, c'était une première approche pas très drôle de l'Iran. Et donc, je ne sais plus très bien comment, le lendemain, à l'heure indiquée, c'est-à-dire en fin d'après-midi, on s'est retrouvé au quartier général de l'armée iranienne. Monsieur le colonel est venu nous dire que son fils allait arriver dans quelques heures, il avait pris le train et il allait venir nous chercher. Et ça, c'est la première expérience de cette espèce d'hospitalité qui ne s'est jamais démentie des Iraniens. Est-ce que c'est parce qu'on était avec des Iraniens? Je ne crois pas, parce qu'on a eu d'autres expériences. Bref, cet ami a fait 1200 km dans un sens et nous avons refait 1200 km dans l'autre sens pour rejoindre Machad.
Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce grand sens d'hospitalité?
À ma connaissance, mais je ne suis pas un spécialiste, c'est lié au sens religieux de musulman, de l'islam. On doit ouvrir sa porte et offrir l'hospitalité. De bon cœur ou pas de bon cœur, c'est une autre histoire, mais on le fait. Et j'ai toujours vécu cette expérience. J'ai une autre expérience, alors, dans le même sens, c'est qu'au sud de l'Iran, à Shiraz, je crois, j'ai vu tout à coup une sorte de miroir créé par un artisan local que j'ai beaucoup aimé, mais je n'avais pas vraiment l'argent pour l'acheter. Et en revenant de Shiraz, en remontant sur Téhéran, c'est-à-dire 800 km probablement, j'ai un peu oublié, ou Persépolis, ou 800 km, je rencontre le frère de mon ami, qui était là à ce moment-là à Téhéran. Je lui raconte qu'on avait vu un si beau miroir, mais que je n'avais pas l'acheté. Il m'a demandé où c'était, quelle ville, et quelle... Comme ça, je lui ai raconté. Et il a fait le trajet, lui, en bus, le lendemain, pour aller l'acheter et me le rapporter. Et je l'ai toujours ici, hein. À propos d'hospitalité, j'ai quand même un bémol à faire. C'est que vivant dans la maison de cet ami iranien, pour des raisons que j'ai ignorées au départ et compris par la suite, chaque fois que je sortais de ma chambre, je devais agiter une clochette. Et je ne savais pas très bien pourquoi, ou alors faire du bruit. Et j'ai appris par la suite, c'était pour éviter que sa grand-mère ne voie un infidèle et soit donc souillée par l'infidèle que j'étais.
Donc là, on voit une scission dans la famille, quoi, là, entre les jeunes qui sont très ouverts à l'étranger et aux non-musulmans.
Et... Oui, oui, et puis il y a eu des drames forts. Le fils de cette grand-mère-là était le colonel du Shah. Il avait du whisky, il avait toutes sortes de choses chez lui. Le fils qui avait vécu en Occident aussi buvait de l'alcool. Et un soir, on avait, sur le toit de la maison, on avait bu une bouteille de vin. Et je crois que la grand-mère avait fait un drame épouvantable en nous accusant, nous occidentaux, de dévoyer la brave jeunesse, alors que son propre fils, je l'avais vu, buvait, se droguait, etc.
Encore une question, à l'époque, donc, le pays était régi par le Shah, qui était très proche du gouvernement américain. Quelle était l'opinion des gens par rapport au Shah en général?
Alors ça, c'est un peu délicat, puisque... Mon ami était le fils d'un colonel du Shah, mais comme tout bon fils, il était en révolte contre son père, donc il a fini dans l'extrême opposé, dans le parti extrême opposé au Shah. Bon, mais à l'époque, eh bien évidemment, j'ai constaté ici et là, en rencontrant des gens, surtout des étudiants, qui n'étaient pas tous très favorables au Shah, qu'ils avaient des attitudes... relativement négative à son égard, et puisque la question m'est posée, au retour, je me suis autorisé à l'écrire, j'ai eu une page dans ce qui était un journal suisse à l'époque, qui était La Suisse, une page pour dire quelle était l'impression que j'avais eue et ce que j'avais découvert de gens qui, indirectement ou d'une manière cachée, étaient très critiques à l'égard du Shah. Oh là là, j'ai eu des ennuis avec l'ambassade iranienne à Genève, hein, qui m'a menacé de procès. Mais ça, je l'avais constaté. Et à juste titre, ça, je ne sais pas quand le Shah est tombé, mais il n'y a pas longtemps après, je crois, le Shah a été renversé. À propos d'anecdotes, et en Iran toujours, c'était à Machad, j'ai une anecdote qui maintenant, a posteriori, me fait presque froid dans le dos, tellement je me dis que j'étais complètement cinglé d'avoir fait ça. Complètement illuminé. Il y a un tombeau que tout l'Iran connaît, qui est à Machad. Je ne sais pas si c'est Hussein, je ne sais pas quel prophète est enterré là. Et c'est un lieu de pèlerinage sacré, hein, vraiment très sacré. Et curieux, j'aurais bien voulu voir comment c'était à l'intérieur de cette mosquée, c'est comme une mosquée, c'était une mosquée. Ce que les gens y faisaient, mais comme j'étais chrétien, c'était impossible d'y aller. Alors, en accord et à ma demande avec cet ami, je me suis déguisé, je me suis mis une djellaba, puis j'ai appris une prière que je devais prononcer en touchant ou en allant autour d'eux, mais en allant dans le bon sens. Et alors, je suis rentré, puis je faisais mes prières. Et je vois encore à un certain moment, parce que là j'ai eu peur, un gars qui me regarde comme ça par un peu de côté, je dis oulala, est-ce que j'ai découvert, alors je suis vite reparti là, mais je pense maintenant j'aurais pu faire des mois de prison.
Comme on l'a vu tout à l'heure, Jean-Daniel et son compère ont bien roulé leur bosse en Iran. Ils décident alors de poursuivre l'aventure en direction de l'Est, à la découverte de l'Afghanistan.
Alors je me souviens qu'on est parti,
imprévu, alors.
Complètement imprévu, ouais. Parti en Sokoli. En Afghanistan, je vois encore un socolier en Afghanistan, il faisait beau comme ça. Ce qu'on ne savait pas, c'est que le bus iranien s'arrêtait à un certain endroit, puis après il fallait faire des kilomètres sur une terre battue pour arriver
à pied
à la frontière de l'autre côté où on avait un autre bus qui nous attendait. Il n'y avait pas de
faire du stop, c'est pas possible.
Non, mais personne, tout le monde devait faire ça. Il n'y avait pas de voiture, donc il fallait aller de l'autre côté. Il y avait une sorte de no man's land à Sokoli, je vois encore la chose là. Et alors on est arrivé, bon, de l'autre côté, et là, on est tombé, enfin je dis on parce qu'il est toujours avec cet ami-là, tombé sur un groupe de jeunes occidentaux, mais américains, parce qu'ils parlaient tous anglais, non, il y avait aussi des Français qui étaient là, et qui faisaient ce qui est devenu ensuite, ou qui commençait à l'être, la route, comme on disait. Ils faisaient la route et qui allaient jusqu'à Kaboul et jusqu'en Inde, si possible, pour des raisons essentiellement liées à la drogue. Alors, je me souviens du haut de mon ignorance et de ma stupidité dans le bus. Je disais à ces Iraniens, ces Américains qui étaient à côté de moi, que je trouvais quand même incroyable qu'on fasse tout ce chemin juste pour aller fumer quelque chose que je ne connaissais pas. Et bon, ils me regardaient un petit peu en me disant, mais il sort d'où celui-là? Pourquoi est-ce qu'il est ici? Puisqu'en fait, on va tous pour ça. Alors, en chemin... Il y a eu une halte, alors je les ai vus tous sortir, se précipiter au petit, j'allais dire bistrot, c'est pas un bistrot, ma petite auberge locale, et tous revenir au bout d'un certain temps, ravis, et se mettre justement à fumer le hash, là. Voilà, ça c'était aussi une expérience très particulière. Donc nous avons continué ensemble jusqu'à Herat, c'était la première ville, et là on est resté quelques jours, on n'est pas resté très longtemps, quelques jours, et j'étais complètement émerveillé par le paysage, par l'ambiance locale. Je me souviens avoir rencontré dans ces... Ce ne sont pas des cafés, puisqu'on ne peut pas dire du café, mais du thé, là, dans ces tea rooms, comment dire, ou des salons de thé un peu pouilleux, mais quand même des salons de thé, des personnes âgées avec des grandes barbes blanches, des turbans, et qui restaient des heures en se lissant la barbe tranquillement, sans bouger. Je trouvais qu'ils étaient... L'expression même de la sagesse. J'ai compris par la suite que la sagesse était bien aidée par ce qu'ils ingurgitaient régulièrement. Je les voyais ingurgiter, mais j'étais très naïf à l'époque. Voilà, ça c'est un peu l'Afghanistan. Je me souviens, on fait des promenades à cheval dans les environs, enfin, dormi sur les toits, dans un lieu qui me reste comme un des plus beaux lieux. Enfin, pendant longtemps, j'ai trouvé que l'Afghanistan était le pays le plus beau qu'il m'ait été donné de voir.
Et la suite de votre voyage ?
Ben, la suite, il a fallu quitter le paradis, retourner sur Terre, rentrer en Iran, voyager pendant quelques semaines en Iran, retrouver toute la traversée de la Turquie jusqu'à Ankara, retrouver une voiture qui ne fonctionnait plus très bien, retraverser le Bosphore, ensuite repartir, traverser le bout de Turquie, la Macédoine, la Grèce, retraverser ensuite l'Adriatique et rentrer... Car avec une deux chevaux bien essoufflée jusqu'en Suisse.
En espérant que ce récit vous aura fait voyager dans votre imaginaire, il me reste à souhaiter à Jean-Daniel une très longue vie de bourlingueur. Sa passion pour l'ailleurs ne semble pas le quitter, puisqu'il vient de faire plusieurs séjours en Chine et va bientôt revoir l'Iran. Merci donc à Jean-Daniel Coudray pour cette interview. Salutations à toutes et à tous.